Gott! Bert Chupacabra von Wuppertal. Ciao.
I think I need you. Don't you need my love tonight? Deep inside, it's all around me. I cannot hide from this feeling I have inside. Ooh, is this a miracle or a magical love? Ooh, is this a
which our co-host. What's your DJ name today?
Buried deep beneath the stone, and the valley people swore they'd have it for their very own. Go ahead and hate your neighbor, go ahead and cheat a friend, do it in the name of heaven, you can justify it in the end. There won't be any trumpets blowing come the judgment day on the blood. One tin soldier rides away. So the people of the valley sent a message up the hill, asking for the buried treasure, tons of gold for which they'd kill. Came an answer from the kingdom, with our brothers we will share all the secrets of our mountain, all the riches buried. With anger, mount your horses, draw your sword, and they killed the mountain people, so they won their just reward. Now they stood beside the treasure on the mountain, dark and red, turned the stone and looked beneath it. Peace on earth was all it said.
mig flöt. Borde sen bankrummen. Kan någon snitt helen väsen den ut. Var lärde någon snitt befelen väsen den ut. Tot det eruit spuit.
Patapool forever.
Vond je dat?
Ja, die is goed.
Jusqu'alors, je l'avais interrogé par simple curiosité. Mais à partir de ce moment, j'éprouvais à son égard un immense intérêt et je me mis à écouter avec la plus grande attention toutes les explications qu'il continua à me donner. Je compris soudain de tout mon être que certaines idées que j'avais acceptées jusqu'alors comme des vérités incontestables n'étaient pas justes. Auparavant, je n'avais vu qu'un seul côté des choses. Maintenant, je les voyais sous un jour différent. Une foule de questions surgissait dans ma tête à propos du problème que nous avions abordé. Absorbé par notre conversation avec le derviche, le docteur Sarioglé et moi avions complètement oublié nos autres camarades et nous avions cessé de traduire ses paroles. Voyant combien nous étions intéressés, il nous interrompait de temps en temps par des questions « Que dit-il ? De quoi parle-t-il ?» Et chaque fois, nous devions nous débarrasser d'eux en leur promettant de tout leur raconter plus tard en détail. Lorsque le derviche eut fini de parler de la mastication artificielle, des différents moyens d'absorber la nourriture et de la transformation automatique qu'elle subit en nous, selon les lois, je lui dis « Ayez la bonté, mon père, de m'expliquer ce que vous pensez de la respiration artificielle. Je la crois utile et la pratique selon les indications des yogis. J'aspire l'air, je le retiens quelques instants et je l'exhale lentement. Peut-être serait-il préférable de ne pas le faire ?» Le derviche, voyant que mon attitude envers ses paroles avait changé du tout au tout, se mit à m'expliquer avec bienveillance ce qui suit. Si vous vous faites du mal en mâchant ainsi la nourriture, vous vous en faites mille fois plus en pratiquant cette sorte de respiration. Tous les exercices de respiration qui sont donnés dans les livres ou que l'on enseigne dans les écoles ésotériques contemporaines ne peuvent faire que du mal. La respiration, comme doit le comprendre tout homme de bon sens, est, elle aussi, un processus d'absorption, mais d'une autre sorte de nourriture. En entrant dans l'organisme et en s'y transformant, l'air, tout comme la nourriture ordinaire, se décompose en ses parties constitutives qui forment de nouvelles combinaisons, soit entre elles, soit avec les éléments correspondants de certaines substances déjà présentes dans l'organisme. Pour donner naissance aux différentes substances qui ne cessent d'être consumées par les processus de vie qui s'opèrent en l'homme. Vous n'ignorez pas que pour obtenir une substance nouvelle, les éléments qui la constituent doivent être dosés selon des proportions bien définies. Prenons le plus simple des exemples. Vous voulez cuire du pain. Pour cela, il vous faut tout d'abord préparer la pâte. Cette pâte exige une stricte proportion d'eau et de farine. Si vous ne mettez pas assez d'eau, au lieu de pâte, vous aurez quelque chose qui se brisera au moindre contact. Si vous mettez trop d'eau, vous ferez une bouillie, tout juste bonne à nourrir les animaux. Ni dans un cas ni dans l'autre, vous n'obtiendrez la pâte dont on fait le pain. Il en va de même pour toutes les substances requises par l'organisme. Les éléments qui les composent doivent se combiner entre eux dans une stricte proportion, en qualité comme en quantité. Quand vous respirez de la manière habituelle, vous respirez mécaniquement. L'organisme prend lui-même dans l'air, sans votre aide, la quantité de substance qu'il lui faut. Les poumons sont ainsi faits qu'ils sont habitués à travailler avec une quantité d'air bien définie. Si l'on modifie la quantité d'air qui passe dans les poumons, les processus intérieurs de fusion et d'équilibre s'en trouveront eux-mêmes inévitablement modifiés. Pour qui ne connaît pas dans tous leurs détails les lois fondamentales de la respiration, la pratique de la respiration artificielle ne peut que mener à une autodestruction lente, peut-être, mais certaine. Ne perdez pas de vue qu'en dehors des substances nécessaires à l'organisme, l'air en contient d'autres qui sont inutiles et même nuisibles. Et la respiration artificielle, c'est-à-dire la modification forcée de la respiration naturelle, permet à ces nombreuses substances nuisibles à la vie de pénétrer dans l'organisme. En même temps, elle rompt l'équilibre quantitatif et qualitatif des substances utiles à une vie normale. La respiration artificielle change la proportion entre la quantité de nourriture que nous tirons de l'air et celle de nos autres nourritures. Par suite, si vous augmentez ou diminuez l'apport d'air, il vous faut augmenter ou diminuer en conséquence l'apport des autres sortes de nourriture. Pour maintenir un juste équilibre, il vous faut avoir une entière connaissance de votre organisme. Mais vous connaissez-vous si bien ? Savez-vous par exemple que les aliments sont nécessaires à l'estomac non seulement pour la nutrition elle-même, mais parce qu'il est accoutumé à recevoir une quantité définie de nourriture ? Si nous mangeons, c'est avant tout pour satisfaire notre goût et pour obtenir la sensation habituelle de plénitude qu'éprouve l'estomac quand il contient une certaine quantité de nourriture. Dans les parois de l'estomac se ramifient les nerfs mobiles qui, entrant en activité en l'absence d'une certaine pression, nous font éprouver la sensation particulière que nous nommons faim. Il y a ainsi différentes sortes de faim. Par exemple, la faim du corps ou faim physique est ce que l'on pourrait appeler la faim nerveuse ou psychique. Tous nos organes travaillent mécaniquement et en chacun d'eux se crée, selon sa nature et l'habitude acquise, un certain rythme de fonctionnement. Il existe entre les rythmes de fonctionnement des différents organes une relation bien définie qui assure à l'organisme son équilibre. Un organe dépend de l'autre, tout est lié. En modifiant artificiellement la respiration, nous commençons par modifier le rythme de fonctionnement des poumons, mais comme l'activité des poumons est liée entre autres à celle de l'estomac, le rythme de fonctionnement de ce dernier s'en trouve lui-même modifié, tout d'abord légèrement, puis de manière de plus en plus accusée. Pour digérer, l'estomac a besoin d'un certain temps, disons environ une heure. Mais si le rythme de fonctionnement de l'estomac est changé, le temps pendant lequel les aliments y séjournent changera lui aussi. Par exemple, les aliments passeront si vite que l'estomac n'aura le temps de faire qu'une petite partie de son travail. Il en est de même pour les autres organes. Aussi est-il mille fois préférable de ne pas toucher à notre organisme. Mieux vaut le laisser dans l'état où il est, même s'il est détraqué, que de le réparer sans savoir comment. Je le répète, notre organisme est un appareil très compliqué. Il comporte de nombreux organes qui ont tous des processus de rythme différents et des besoins différents. Il vous faut donc choisir, changer tout ou ne changer rien. Sinon, en fait de bien, vous ne ferez que du mal. Quantité de maladies proviennent de la respiration artificielle. Bien souvent, cela finit par une dilatation du cœur ou par un rétrécissement de la trachée quand ce n'est pas l'estomac, le foie, les reins ou les nerfs qui sont atteints. Il est très rare que ceux qui s'exercent à la respiration artificielle ne ruinent pas définitivement leur santé. Seuls s'en tirent ceux qui savent s'arrêter à temps. Quiconque s'adonne pendant longtemps à la respiration artificielle en subira tôt ou tard les déplorables effets. C'est seulement si vous connaissez chaque petite vis, chaque petit rouage de votre machine, que vous pouvez savoir ce que vous devez faire. Mais si vous ne savez presque rien et que vous tentez une expérience, vous risquez gros, car la machine est très compliquée. Certaines petites vis peuvent aisément se casser sous un choc violent et vous ne les retrouverez ensuite dans aucune boutique. Et puisque vous me demandez mon avis, voilà le conseil que je vous donne. Cessez vos exercices de respiration. Notre conversation se poursuivit fort avant dans la nuit. Au moment de partir, après m'être concerté avec le prince sur ce que nous ferions ensuite, je remerciai le derviche en lui disant que nous nous proposions de rester un jour ou deux de plus dans ce village et lui demandai s'il nous permettrait de parler encore une fois avec lui. Il y consentit, ajoutant même que, si nous le voulions, nous pouvions venir le voir le lendemain après le dîner. Nous restâmes dans ce village, non pas deux jours comme nous l'avions prévu, mais une semaine entière. Et chaque soir, après le dîner, nous allions tous chez le derviche nous entretenir avec lui. En rentrant, Sari Ogle et moi faisions part à nos camarades de tout ce qui avait été dit dans ces conversations. Lorsque nous allâmes une dernière fois chez le derviche pour le remercier et prendre congé, Hekim Bey, à notre grand étonnement, s'adressa soudain à lui en persan, sur un ton de déférence qui ne lui était pas habituel, et dit « Mon bon père, j'ai pu me convaincre de tout mon être pendant ces quelques jours que vous étiez vraiment... » Il s'interrompit un instant pour nous prier précipitamment Sari Ogle et moi de le laisser parler sans l'aider et de ne le corriger que dans le cas où ses expressions aurait dans la langue locale une signification particulière qui pourrait dénaturer le sens de ses paroles. Puis il reprit. Que vous étiez vraiment l'homme que je cherchais instinctivement ces derniers temps pour lui confier la direction de mon monde intérieur afin de régler et de neutraliser la lutte qui a surgi en moi depuis peu entre deux tendances absolument opposées. Toutefois, des circonstances indépendantes de moi ne me permettent pas de m'installer ici près de vous et de venir, dans les moments difficiles, écouter avec vénération vos indications et vos conseils sur la manière dont je devrais vivre pour mettre fin à cette angoissante lutte intérieure et me préparer à acquérir un être digne de l'homme. C'est pourquoi je vous demande, si cela vous est possible, de ne pas refuser de me donner dès maintenant, en peu de mots, quelques indications sur les principes de vie qui conviennent à un homme de mon âge. À la question inattendue et quelque peu solennelle d'Hekim Bey, le derviche persan répondit longuement, avec beaucoup de détails et de précisions. Je ne reproduirai pas ces explications ici, dans cette seconde série de mes écrits, car je considère que pour les lecteurs sérieux de mes ouvrages, cela serait prématuré et nuirait même à la perception correcte de mes idées qui doivent les mener à une vraie compréhension et non pas à un savoir vide. Aussi ai-je décidé, en toute tranquillité de conscience, de n'exposer que plus tard la quintessence de ces conceptions dans un chapitre approprié de la troisième série de mes ouvrages, chapitre que j'intitulerai « Le corps physique de l'homme, ses besoins conformes aux lois et ses possibilités de manifestation ». Le matin qui suivit cette dernière visite au derviche, nous nous remîmes en route, en laissant au sud l'itinéraire que nous avions d'abord projeté. En effet, deux d'entre nous, Karpenko et le prince Nijeradze, étaient affaiblis par les fièvres et leur état s'aggravait de jour en jour, de sorte qu'au lieu de nous diriger vers le golfe Persique, nous obliquâmes vers Bagdad. Nous atteignîmes Bagdad où nous vécûmes un mois, puis nous nous dispersâmes. Chacun alla de son côté. Le prince Lubovetsky, Yelov et Hekim Bey partirent pour Constantinople. Karpenko, Nijeradze et Pogossian voulaient tenter de remonter le Frat jusqu'à sa source, puis de traverser les montagnes et de gagner la frontière russe. Le docteur Sarioglé et moi nous mîmes d'accord avec les autres pour retourner en Perse, cette fois dans la direction du Khorassan, et décider là-bas de la suite de notre expédition.
Shout it out. Sterreplaten extra.
Weird music isn't weird anymore, it's just music that exists.
Goedenavond en welkom bij Sterreplaten. Na 2 jaar en een handjevol singles is er nu eindelijk het debuut van Black Country, New Road. Ja, postrock is natuurlijk altijd een vervelende beschrijving, maar het ligt wel in het verlengde van die zigzagtempo's en van die gebroken melodieën van Slint. Het album heet For the First Time, vandaarop is dit track X, Black Country, New Road. Goedenavond.
I left
Track X van Black Country, New Road, komt van op hun debuut. For the First Time komt uit op hun Ninja Tune. En dan Colleen, nieuwe album gaat The Tunnel and the Clearing heten. Als je het wil horen, ga je nog eventjes moeten wachten, want het komt pas in mei uit. Ze is al een hele tijd geleden aan dit album begonnen, in 2018 al. Ze is een tijdje ziek geweest, ze is naar Barcelona moeten verhuizen. En dan natuurlijk de onvermijdelijke lockdown er vorig jaar nog bovenop. Dit nummer dat we gaan draaien, Santa Eulalia, dat is de patroonheilige van Barcelona. Gazing at Taurus van Colleen.
Cathedral spire.
Gazing at Taurus, Santa Eulalia, van op The Tunnel and the Clearing van Colleen. We hebben ook een postuum album van Pauline Anna Strom. Het album komt volgende week uit. Pauline Strom is helaas in december overleden. Ze werd in 1946 geboren, was van geboorte af aan trouwens ook blind, is zich later gaan specialiseren in synthesizermuziek, vaak ook met een spirituele dimensie. Album dat dus volgende week uitkomt heet Angel Tears in Sunlight. We draaien Small Reptiles on the Forest Floor van Pauline Anna Strom.
Thank you.